Onde durable.
Terrain commun, récit d'écologie populaire.
À la rencontre de celles et ceux qui font vivre une écologie populaire au quotidien.
Ancrée dans les territoires, les pratiques et les récits.
Bonjour à toutes et à tous. Comment permettre à l'ensemble de nos populations d'accéder à une alimentation saine, de qualité et accessible financièrement ? Une possible réponse serait la sécurité sociale de l'alimentation. Ce nouveau projet de sécurité sociale est inspiré de celle que l'on connaît tous pour la santé. Elle serait universelle, conventionnée et fonctionnerait à partir d'une cotisation calculée sur la valeur ajoutée produite par l'activité économique. Ce concept de sécurité sociale de l'alimentation est le fruit d'années d'études menées par l'INRA, la Confédération paysanne ou des organismes de coopération agricole comme le CIVAM. Nous en parlerons dans quelques minutes avec Jean-Claude Balbeau, un éleveur breton très impliqué sur ce sujet. Mais tout d'abord, direction la région de Morlaix dans le Nord Finistère où justement une expérimentation de sécurité sociale de l'alimentation a été lancée en 2025 par un collectif associatif. C'est un reportage signé Pierre-Louis Le Seul de Radio U, votre radio associative universitaire à Brest, Quimper et Morlaix.
J'arrive à Plouganou, une commune qui est à 15 km à peu près au nord de Morlaix. Et je vais à la ferme du Champ-Perché pour rencontrer des membres du collectif de la sécurité sociale de l'alimentation qui sont normalement en train de travailler sur la ferme.
Je m'appelle Géraldine, je travaille à l'ULAMIR CPIE, donc ULAMIR c'est Union Locale d'Animation en Milieu Rural et CPIE, Centre Permanent d'Initiative à l'Environnement, donc un centre social et un centre d'éducation à l'environnement. Et j'accompagne depuis un an et demi la démarche de sécurité sociale de l'alimentation sur le pays de Morlaix. Et c'est un projet qui a été lancé en 2019 au niveau national dans l'idée de permettre à toutes et tous d'avoir accès à une alimentation saine et durable. Là, c'est un concept puisque pour l'instant, on ne le met pas encore en place sur toutes les fiches de paye. C'est un peu comme la sécurité sociale de la santé. Dans l'idéal, il faudrait que chacun puisse avoir accès à cette alimentation en cotisant sur sa fiche de paye. Mais pour l'instant, ce n'est pas encore ce qui est possible. On lance des expérimentations un peu partout en France, sur les territoires. Donc il y a une centaine d'expérimentations qui se lancent sur la France et il y a 60 caisses qui se mettent en place. Donc pour une caisse, il faut qu'il y ait une personne qui cotise et chacun reçoit la même chose. Donc nous, sur notre expérimentation, on est parti sur 150 buzuks alimentaires que tout le monde recevrait pour la première personne et 75 buzuks alimentaires pour la deuxième. Et chacun cotise selon ses moyens. Donc certains cotisent 20 euros et reçoivent 150 et d'autres cotisent plutôt 200 et reçoivent 150.
Comme l'a dit Géraldine, cotiser à hauteur de ses moyens et alors que tout le monde reçoit la même quantité de monnaie alimentaire pour que tout le monde ait le même budget pour avoir accès à une alimentation choisie. Parce que, comme disait Jean-Claude Balbeau, c'est la première alimentation de qualité et l'alimentation qu'on est capable de choisir. À peu près. L'idée est là. Et du coup, moi, c'est Charlotte. Je suis maraîchère bio à Plouganou, installée depuis 4 ans maintenant. Et je fais partie de la SSA du Pays de Morlaix en tant que membre active et, on va dire, penseuse, entre guillemets, du modèle de SSA pour l'expérimentation 2026.
On est un collectif d'une trentaine de bénévoles et citoyens, citoyennes actives, avec certains membres qui sont aussi maraîchers, maraîchères, paysans. Et on se rencontre au moins une fois par mois pour réfléchir ensemble à ce qu'on souhaite. Donc voilà, ça fait 2 ans qu'on a une réunion par mois où on décide collectivement de ce qu'on veut comme modèle. Donc on rencontre des personnes ressources, on échange avec d'autres expérimentations sur le niveau national. Et après on réfléchit, on parle, on décide ensemble. Donc chacun a une voix et peut voter et surtout donner son avis pour qu'on puisse mettre cette expérimentation vraiment en place.
L'expérience qui fait qu'ils arrivent à ça sur une terre qui est quand même très limoneuse, c'est bizarre, c'est, comment on appelle ça, la corne d'abondance malgré tout.
Il y a aussi les mots, quoi, sécurité sociale, donc sécurité pour moi ça me fait penser, on essaye de garantir une alimentation de qualité à peu près au maximum de personnes, sociale parce qu'on met l'humain en premier, c'est pas l'économie qu'on met en premier, on met l'humain. Nous, les consommateurs, mais aussi les producteurs. Et c'est là la dimension territoriale que je trouve hyper riche dans cette démarche-là, c'est qu'on associe une démarche sociale à une démarche de territoire économique, écologique et humaine, quoi, finalement, où on vient par cette démarche-là en tant que consommateur soutenir des producteurs qui s'engagent sur notre territoire avec leur force de travail pour structurer le paysage, améliorer l'écologie, parce que là on voit bien sur une exploitation telle que celle de Charlotte et Victor, il y a plein de petites choses qui sont bénéfiques à bien plus que la production de légumes. Il y a une réserve d'eau, il y a des talus qui sont entretenus, donc la biodiversité, là, au niveau faune, flore, enfin tout, quoi, il y a tout. Donc c'est un bénéfice multicouche, c'est vertueux dans le bon sens du terme, quoi. Il y a une économie qui tourne, des familles qui peuvent vivre de ce métier-là, des consommateurs qui profitent de bons légumes, et une nature et un environnement, et on est tous bénéficiaires. Moi, je suis Michel, habitante de Morlaix depuis un petit moment. J'ai 56 ans, je suis mariée, j'ai deux enfants.
Et du coup, membre du collectif de la SSA.
C'est ça, membre du collectif.
Je me demandais si tu pouvais m'expliquer justement, votre implication en tant que membre du collectif, ce qu'on vous demande de faire, comment vous vous organisez, etc.
Dans un premier temps, c'est de la démocratie participative, donc c'est du temps d'échange. Chacun prend la parole à tour de rôle, on essaye de voir qu'est-ce qui nous semble important pour que la démarche garde ses valeurs et quels sont les garde-fous en termes de participation. Dans un premier temps, c'est surtout un temps de réunion. Un temps de réunion où il faut trouver la manière, comment on va décider des choses ensemble, quoi. Et c'est pas facile, parce que forcément, dès qu'il y a plus de deux personnes, on n'est pas d'accord. Alors c'est le jeu, on le sait, et c'est ce qui fait sa richesse et sa lenteur en même temps. Voilà, c'est forcément tout, il y a des paradoxes dans tout, dans toute démarche, dans celle-là aussi. Mais je pense que c'est intéressant quand même parce qu'on se sent impliqué. Bon, pour l'instant c'est ça. Comme ça démarre, aujourd'hui on est à un atelier où on nous propose de participer aux activités des producteurs, mais aussi et en premier lieu je dirais de les rencontrer, de voir qui y a derrière les légumes que je mange, quoi.
Parce que sinon on les lave pas pour les conserver, mais on fait un petit check
c'est pour faire le tri.
Ouais, puis se donner une idée de l'état sanitaire global.
Ok.
Donc là on est vraiment dans la phase préalable à cette caisse, à la création de cette caisse locale. On n'a pas encore commencé à cotiser. Je m'appelle Fanny et je fais partie des personnes qui ont été tirées au sort pour participer à la démarche de sécurité sociale de l'alimentation en Pays de Morlaix. Pour la petite histoire, je travaille au RESAM et du coup pendant 2 ans on a animé un groupe qui a réfléchi sur des projets pour favoriser une alimentation de qualité, respectueuse du vivant. Et un des projets qui a émergé, c'est la sécurité sociale de l'alimentation. Pendant 2 ans, j'y ai été comme, on va dire, co-animatrice avec ma collègue Elodie. Et en fait, aujourd'hui, j'avais envie de rejoindre l'aventure parce que du coup, j'étais aussi curieuse de changer de place, donc de plus être à l'organisation, à l'animation, mais bien aussi de pouvoir être là en tant que participant pour réfléchir à qu'est-ce que je vais manger demain, quoi.
Et d'un point de vue perso, toi, ça t'apporte quoi de participer à cette expérience ?
Et bien, à vrai dire, j'y allais peut-être pas pour ça à la base, mais je m'en suis rendu compte le premier jour. C'est en fait, on s'inscrit dans une démarche collective. Déjà, je trouve ça hyper chouette. Et en fait, on vit tous dans là, un monde où du coup, on a une espèce d'angoisse. Là, on ne sait pas s'il va y avoir la guerre, pas la guerre. Il y a l'espèce d'éco-anxiété. Enfin, on sait que, voilà, on voit bien, même ici en Bretagne, voilà, le climat qui change. Et du coup, c'est de se dire, en fait, j'ai l'impression, à travers ma participation à ce collectif, de contribuer et de faire quelque chose, quoi. Donc, de transformer une espèce d'angoisse, de peur en quelque chose de créatif, et en plus de le faire avec d'autres gens, en fait c'est passionnant, quoi. Ouais.
Puis finalement c'est quand même un peu révolutionnaire comme projet, comme expérimentation et même comme idée plus globalement.
Ouais, j'ai même l'impression qu'on est un peu dissident, mais en tout cas il y a quelque chose qui se crée un petit peu en marge d'un courant un peu qui va trop vite. C'est un peu les méandres des rivières, là où il y a l'écosystème qui se développe. Ouais, on est un peu là. Alors je sais pas si c'est une révolution, mais en tout cas ouais, c'est un changement, ça c'est sûr. Ouais.
Bon, merci beaucoup. Bon courage.
Merci à toi. Merci.
Et à très vite.
Non, carrément.
Ouais, ça va. Salut.
Salut.
Voilà, à l'instant, ce reportage sur cette expérimentation de sécurité sociale de l'alimentation menée dans la région de Morlaix, dans le Finistère Nord. Alors, pour revenir sur la genèse de ce nouveau concept social et environnemental, rencontrons l'un de ses penseurs. Il s'agit de Jean-Claude Balbeau, éleveur breton dans le Finistère. C'est loin d'être un inconnu dans le milieu agricole et de la paysannerie, puisque Jean-Claude Balbeau est l'un des créateurs de la Confédération Paysanne, du GAB 29, le groupe agriculture biologique du Finistère, et du CIVAM. Il est également cofondateur des Soulèvements de la Terre. Il explique au micro de Pierre-Louis Le Seul de Radio U les piliers fondateurs de cette sécurité sociale de l'alimentation.
Sortir du marché, sortir de l'offre, de l'agrandissement de l'offre, pour se focaliser pour faire émerger la demande et la faire émerger démocratiquement et en connaissance de cause, ça, c'est ce qui nous a, c'est un des piliers de ce qu'aujourd'hui on appelle sécurité sociale, mise en sécurité sociale de l'alimentation. Voilà. Donc, socialiser, formuler, on peut le formuler, ça prend au moins trois formes. Sortir de la loi, de l'offre, sortir du marché, c'est reprendre en main les politiques publiques. Faire en sorte que les politiques publiques agricoles ne soient pas des politiques privées industrielles telles qu'elles sont aujourd'hui. Parce qu'on paye tous des impôts, on paye tous des taxes, donc il n'y a aucune raison que ces politiques publiques ne soient pas pliées à nos objectifs. Je viens de te dire là que nos objectifs, quand on les écrit, nos gouvernements sont obligés de s'asseoir dessus, parce que sinon, ils plient leur goule. La deuxième forme, c'est celle pour laquelle tu travailles, là, si on peut dire, en ce moment, c'est donc la mise en sécurité sociale, en reprenant ce qu'était l'exercice de régime général de la sécurité sociale de 1946. La troisième voie de socialisation, qui est importante, et qu'on va pas détailler, mais si tu veux, on en reparlera à un autre moment, c'est la question de la subsistance. C'est-à-dire que chacun d'entre nous qui désire produire toute ou partie de sa nourriture doit avoir les moyens de le faire, doit trouver les moyens de le faire, si tu veux. Ce qui est le capitalisme industriel, et notamment l'agriculture industrielle, pour se mettre en place, la première des choses qu'elle a faites, c'est priver l'ensemble de la population de ses capacités de subsistance. Tu vois, privatiser les bois, etc., privatiser l'outil de production, qui fait que tu ne pouvais plus avoir accès au chauffage, aux châtaignes, aux champignons. Tu t'es retrouvé, de fait, à bosser dans les usines. Quand le réseau CIVAM a... C'était fin 2018, d'ailleurs, c'est pas fin 2019. Quand le réseau CIVAM a clôturé sa recherche par un séminaire final de recherche qu'on appelait Accessible, qui est une recherche donc, qui a été menée dans le réseau paysan pendant 4 ans, avec un budget très conséquent, alimenté en partie par le ministère de l'Agriculture, pour être précis. Quand ce séminaire final-là, qui a eu lieu de mémoire au mars 2019, Et on, à l'issue du séminaire, dans la demi-heure qui a suivi l'heure de clôture, on a présenté aux 100 personnes qui étaient là trois lignes de réflexion pour aller plus loin dans la... Ça, et il y avait le travail, l'entreprise sociale et solidaire. Il y a celui qui a mis en place VRAC, tu vois, qui a, Boris Tavernier, qui est venu présenter son travail en tant qu'entrepreneur social, comment l'entreprise sociale, l'entreprise tout court, pouvait participer à la lutte contre les inégalités. Il y a Paul Ariès qui est venu parler de la gratuité de l'alimentation. Paul Ariès est le tenant d'un courant, c'est un économiste, un spécialiste de l'alimentation, il est aussi un tenant d'un courant sur la gratuité des services minimums. C'est un courant qui date de la Révolution française, hein, tu vois, la gratuité des services minimums assurés aux citoyens. C'est Robespierre, en gros. Donc, Paul Ariès qui est venu là, 10 minutes, et les troisièmes 10 minutes, c'était les gens de Ingénieurs sans frontières qu'on avait invités, deux personnes d'Ingénieurs sans frontières qui sont venues présenter publiquement, je pense pour la première fois, les mécanismes de sécurité sociale de l'alimentation que nous avions imaginés dans les années précédentes, avec ces trois piliers. Ce moment-là, je pense que pas grand monde ne comprenait vraiment de quoi il s'agissait. Je ne sais pas si on était... je n'ai aucune idée des chiffres, donc je ne veux pas t'en donner. Mais peut-être qu'on était 30, peut-être qu'on était 50, mais certainement pas les 100 personnes qui étaient dans la salle. Et encore fallait-il être capable de redire ce que tu pensais avoir compris, quoi, tu vois. Donc ce n'était pas simple à l'époque. Eh bien, oui, comme tu le faisais justement remarquer, là, en 2025, 2026, maintenant, là, donc 7 ans après, on est devant un foisonnement absolument incroyable d'expérimentation de terrain, de prise de parole, de livres, d'articles dans les journaux, qui parlent de cette sécurité sociale de l'alimentation, avec des points de vue tous parfois différents, tous respectables, je dirais pas toujours, mais au moins intéressants à regarder, à prendre en compte. Et comment on en est arrivé là? Eh bien, nous, on serait bien en peine de le faire. Alors, je peux te décrire comment on en est arrivé là. Quand on a rendu public cette proposition-là, on a créé un collectif national. On devait être 7, 8 associations au départ. Il y avait, de mémoire, je ne vais pas me tromper, il y avait le réseau CIVAM, il y avait Ingénieurs sans frontières, il y avait Réseau Salariat, il y avait Démocratie Alimentaire, qui est une association de chercheurs de l'INRA. Il devait y avoir peut-être bien la conf déjà au départ, mais c'est même pas sûr. Il y a un groupe comme ça d'associations. Il y avait des syndicats, il y avait la mutuelle de santé, syndicaliste CGT, mutuelle, je crois que ça s'appelle. Et puis il y avait une association d'éducation populaire qui organise des conférences, gesticulées, ça, j'ai oublié son nom. Qu'importe. On n'était pas très nombreux, c'est ça que je veux te dire. La première réunion qu'on s'est faite, où on s'est mis à peu près tous d'accord pour essayer d'effacer nos divergences, ça date de Villarceau, c'est fin 2018. Tu vois, voilà, c'est un rassemblement. Je suis même pas sûr en plus, peut-être bien fin 2019. À partir de ce moment-là, il y a eu des articles dans la presse, il y a eu des choses qui se sont dites, et on a été ce collectif-là, collectif national, a été submergé de demandes de tout un tas d'associations locales, de groupes locaux, d'habitants qui se préoccupaient de leurs questions alimentaires, qui lors des élections s'assemblaient pour faire des demandes dans les programmes autour de la cantine, autour de tout un tas de choses comme ça, qui voulaient établir des marchés, des magasins fermiers, et puis bien plus large parfois, ça pouvait, beaucoup aussi d'associations qui se préoccupaient de santé, de questions environnementales liées à l'alimentation et à l'agriculture, qui se sont manifestées auprès de nous en disant « mais nous, c'est ce qu'on fait ». Ce qui était sans doute un peu abusé, mais on participait chacun d'entre nous sans doute à au moins une de ces associations près de chez soi. Tu peux pas y échapper, quoi. Et même les paysans, ils participent à ces associations-là. Mais n'empêche qu'on n'avait pas imaginé jusqu'à quel point il y avait un maillage comme ça en France, de personnes ordinaires qui se préoccupaient de ça, et on n'avait pas non plus imaginé à quel point il y avait un appétit énorme pour cette question-là. Remise en question politique de l'alimentation, remise sous le tapis. C'est pas avec ta carte de crédit comme consommateur que tu vas résoudre ton problème alimentaire, c'est avec autre chose, c'est avec ta carte d'électeur comme citoyen que tu vas le faire. Tu vois. Et ça, on n'avait pas mesuré jusqu'à quel point il y avait un appétit pour ça. Et donc, on a été submergé de demandes. Il s'est créé un collectif autour de ces initiatives-là, qu'on a tant bien que mal essayé d'animer, qui s'est animé tout seul d'ailleurs, très vite, et heureusement pour nous, parce que le collectif lui-même, après, a connu lui des déboires. Ce qui fait qu'au bout d'un moment, c'est le collectif des initiatives qui a été le fournisseur d'énergie sur la réflexion nationale. Et aujourd'hui, il n'y a plus qu'un seul collectif qui fonde l'ensemble de ces initiatives avec les associations et organisations professionnelles et syndicats qui sont déjà plus d'une trentaine maintenant, hein, qui ont rejoint en tant qu'organisation le collectif. Voilà où on en est aujourd'hui. Alors les initiatives locales, eh bien, il y a vraiment une très grosse énergie, hein, autour de ces... J'en ai croisé quelques-unes, bien sûr, et puis je le vois bien, il y a vraiment un appétit. Elles sont à l'œuvre, elles essayent de faire fonctionner quelque chose qui s'approche de la sécurité sociale, qui va vers une socialisation sous la forme de cette mise en sécurité sociale, en reprenant les trois piliers. Et elles sont évidemment confrontées à tout un tas d'impasses, à des échecs parfois sévères, à des difficultés de fonctionnement et tout ça. Ça, il ne peut pas en être autrement. Hein. Alors, la difficulté, c'est justement de ne pas s'enfermer dans ce « il ne peut pas en être autrement ». Tu vois, de franchir, de casser ce plafond de verre qui fait qu'aujourd'hui, l'alimentation sans pesticides, pour dire les choses comme ça, elle n'est accessible qu'à une partie de la population. C'est ça le plafond de verre qu'il faut casser. Les initiatives, c'est pour faire ça. Alors, on n'y est pas encore, hein, pas que je sache. Il y a des difficultés, et pour faire marcher l'universalité, et pour faire fonctionner la cotisation, et pour faire fonctionner le conventionnement. Il faut qu'on regarde précisément, soigneusement, toutes ces difficultés-là pour essayer d'en tirer un bénéfice. Pour essayer d'identifier les impasses, les difficultés qui peuvent être parfois aussi cons que des difficultés personnelles. Mais en même temps, on voit bien que on le constate, quoi, que ces initiatives-là, elles touchent un plafond de verre. Donc. Elles sont là avec je te donne un exemple. L'impossibilité de lever des cotisations, parce que de lever les cotisations telles que nous l'entendions, c'est-à-dire sur le revenu de toutes les personnes concernées, de toutes les personnes dans un territoire donné.
Et pourquoi c'est pas possible d'ailleurs ?
Qu'est-ce qui bloque ? Eh bien, c'est justement qu'il faut une loi pour ça. Aujourd'hui, pour pouvoir lever des cotisations sur des revenus, salaire, par exemple, mais pas que, il faut aussi une loi autorisant à le faire. Alors, on pourrait dire, moi je dis autorisé, mais on pourrait dire autrement, obligeant le patron sur une fiche de paye à marquer une cotisation supplémentaire, c'est-à-dire à augmenter la part du salaire socialisé, pour employer des expressions très savantes, du salaire socialisé. Ce qui est intéressant à noter, et qui répond, qui est un symptôme de ce que tu dis, c'est que de l'effervescence, de l'émergence de cette idée-là, et nous, on n'aurait pas donné un sou là-dessus, c'est que l'année dernière, à l'Assemblée nationale, ils ont commencé à se poser la question.
Vous venez d'écouter Terrain commun, récit d'écologie populaire.
Une collection de reportages produite par la CORLAB, la coordination des radios locales et associatives de Bretagne.
Et la FRAP, la Fédération des radios associatives en Pays de la Loire, dans le cadre du projet Ondes Durables.
Ces reportages sont à retrouver sur ondes-durable.fr. Ondes Durables est un projet soutenu par l'État dans le cadre du dispositif Soutenir les alternatives vertes 2 de France 2030, opéré par la Banque des Territoires, Caisse des dépôts.